7 mars 1983, Père Philippe Raymond.
Nous avions donc commencé cet article au point de vue de la foi. Est-ce que l'objet de la foi est quelque chose de complexe, par mode dénonciable? Nous avions vu le corps de l'article, si vous vous souvenez bien. Il y a évidemment ici, n'est-ce pas, toute une série de domaines qui sont proprement au point de vue critique. Je relis pour que nous soyons bien en acte. Les choses connues sont dans le sujet connaissant suivant sa manière à lui. Or, il est une manière propre à l'intelligence, comme nous l'avons dit dans la première partie, c'est de connaître la vérité par composition et division. Voilà pourquoi les choses simples en soi, l'intelligence humaine les connaît suivant une certaine complexité. De même qu'à l'inverse, l'intelligence divine connaît d'une manière incomplexe des choses qui en soi sont complexes, c'est-à-dire nous. C'est ce qui fait qu'on peut considérer l'objet de foi de deux façons. On peut le prendre du côté de la réalité même à laquelle on croit, et à cet égard, il est quelque chose d'incomplexe. Il est la réalité même à laquelle est fixée la foi. D'autre part, on le prend du côté du croyant, et à cet égard, l'objet de foi est quelque chose de complexe, à la manière d'un énoncé. C'est pourquoi les deux opinions ont été soutenues avec vérité chez les anciens. Il y a du vrai dans l'une et dans l'autre. Donc on voit bien ce que c'est que saint Thomas nous montre. Il y a quelque chose d'absolu et d'indivisible du côté de la réalité à laquelle on adhère, c'est Dieu lui-même. Et il y a quelque chose qui demeure complexe, je ne dis pas relatif à Dieu, mais pas une relativité dans son contenu, mais qui implique quelque chose de complexe, c'est l'énonciation de la foi. Quand nous disons que nous croyons, nous disons que nous croyons à Dieu qui s'est révélé, et nous le disons à travers une manière de parler qui est complexe, qui n'est pas simple, parce que nous ne pouvons pas atteindre la vérité dans une intuition et dans un regard direct. Nous saisissons la vérité toujours par mode de composition et division. Pierre est intelligent. Le langage est complexe et exprime comment l'intelligence elle-même ne peut pas avoir ce toucher direct sur la réalité. C'est ce que nous disons en disant que nous connaissons la réalité en formant au-dedans de nous-mêmes ce qu'on appelle le concept. Et dans le jugement, ce qu'on appelle l'énonciation. Vous voyez, c'est juste inverse de la théorie marxiste du reflet. Garaudy a donné toute une théorie d'intelligence dans la perspective de Marx pour montrer que dans la perspective de Marx, l'intelligence était uniquement un reflet. Vous voyez, comme une cathédrale, comme la basilique de Paré, se reflète admirablement dans le petit cours d'eau qui passe à côté. Si on tombe au bon moment, où il y a du soleil, et où on voit ce reflet, c'est très beau. Alors, on voit très bien comment on peut arriver à concevoir l'intelligence comme cela, comme si c'était une plaque de photographie qui reflète immédiatement. Mais ça, c'est pas vital. C'est un miroir. Notre intelligence n'est pas quelque chose qui connaît par mode de réflexe, par mode de reflet, mais notre intelligence connaît en assimilant la réalité, en la concevant au plus intime d'elle-même, selon un mode particulier, et qui est ce mode d'intentionnalité. Ce qui fait que la réalité présente dans mon intelligence sont là un mode différent qu'elle est dans la réalité, puisqu'elle est présente dans mon intelligence par cette forme intentionnelle, le concept. Le concept, c'est cette présence de la réalité dans ce qu'elle a d'intelligible au plus intime de mon intelligence par mode d'intentionnalité. Donc, puisque je connais par mode de concept, en saisissant la réalité progressivement, je comprends très bien que ma connaissance implique une analyse. Je saisis certains aspects, je ne saisis pas tout. Je saisis certains aspects, et saisissant certains aspects, je les remis après. Je saisis Pierre, je saisis intelligence. Or, j'ai saisi l'intelligence chez Jacques avant de rencontrer Pierre. Et comme j'ai découvert à travers Jacques ce que c'est que l'intelligence, je dis ensuite Pierre est intelligent, ainsi que Jacques. Et je fais la composition entre Pierre et intelligent. Et ainsi de suite. Mon intelligence connaît par mode de composition. Pourquoi ? Parce que c'est une intelligence qui analyse. C'est à cause de ça. Une intelligence qui analyse et qui recompose. Et j'analyse parce que j'ai une intelligence abstraite. Mon intelligence abstrait les choses. C'est pour ça qu'elle n'est pas un décalque. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas un miroir. Mon intelligence n'est pas miroir. C'est très intéressant, vous voyez, de montrer le parallélisme avec l'intelligence miroir. Parce qu'au fond, une conception très naïve, c'est très naïf l'intelligence miroir. C'est très très naïf. Mais c'est à ce niveau-là la connaissance marxiste. C'est à ce niveau d'une naïveté prodigieuse, parce qu'il n'y a pas de pensée. Il n'y a absolument pas de pensée. Il y a une volonté de puissance, mais ça c'est très différent. C'est comme ça quelquefois qu'on est plus puissant. Hein. C'est en devenant quelqu'un qui ne réfléchit pas. C'est plus direct. Ça va plus rapidement. Hein. Pour le point de vue de l'efficacité. Parce que quand on pense de trop, alors à ce moment-là, on voit la difficulté. Mais c'est très vrai que c'est très naïf. Et la dialectique ne peut être vécue que de cette manière-là. Même la dialectique hegelienne. Parce qu'il n'y a pas de référence à la réalité. Mais c'est l'intelligence qui elle-même se développe, sans la référence à la réalité. Tandis que chez Marx, il y a un désir de réalisme. Il ne faut pas l'oublier, c'est de la très grosse différence. Vous savez bien ce que dit Engels, on l'a remis sur les pieds, alors que ça marchait sur la tête. Dans la perspective de Marx, Hegel marche sur sa tête. Il fait des petits bonds. Parce qu'il n'a pas deux têtes. Tandis que l'avantage de Marx, c'est qu'il a deux pieds, et Hegel n'a qu'une tête. Et donc ça fait partie de la différence entre la dialectique hegelienne et la dialectique marxiste. Alors, voyons maintenant tout de suite les objections. La première, c'est pas la peine. C'est tout simplement le corps de l'article. Seconde objection, de plus, l'exposé de la foi est contenu dans le symbole. Or, dans le symbole, il n'y a pas des énoncés, mais des réalités. Il n'y est pas dit que Dieu soit tout-puissant, mais il y est dit « Je crois en Dieu Tout-Puissant ». L'objet de la foi n'est donc pas une vérité à énoncer, mais une réalité. C'est très vrai, ça. Vous ne vous arrêtez pas à l'énoncer. « Je crois en Dieu Tout-Puissant ». Alors, dans le symbole, comme le montre la manière même de parler, on cherche à atteindre les choses de la foi, les réalités de la foi. En réalité, c'est les réalités de la foi plutôt que les choses. Ça va mieux dire les réalités de la foi. Dans toute la mesure où s'y fixe l'acte du croyant. Or, l'acte du croyant ne s'arrête pas à un énoncé. Si on a une foi réaliste, on ne s'arrête jamais à l'énoncé. On ne s'arrête jamais aux concepts. On les produit pour connaître, mais on ne les dépiste qu'en réfléchissant sur ma manière de connaître. Mais je ne m'arrête jamais à un concept. Parce que le concept, c'est simplement ce par quoi je connais. Ce n'est pas ce que je connais. Or, l'acte du croyant ne s'arrête pas à un énoncé, mais se fixe à la réalité. Nous ne formons en effet les énoncés que pour avoir connaissance par eux des réalités, aussi bien dans la foi que dans la science. Bien évident, notre connaissance ne s'arrête jamais à nos concepts. On est un peu malade. C'est le gargarisme des concepts. Ça, c'est celui qui discute indéfiniment sur ses concepts, mais il n'est jamais en contact avec la réalité. Alors à ce moment-là, il y a quelque chose qui ne va plus. Parce que nous devons concevoir certaines choses pour adhérer à la réalité. Troisième objection. En outre, à la foi succède la vision. Selon les mots de l'apôtre, nous voyons pour l'instant par un miroir, un énigme, en énigme, mais alors ce sera face à face. Pour l'instant, je connais en partie, mais je connaîtrai alors tout comme je suis connu. Or, cette vision de la patrie implique qu'elle a pour objet l'essence divine elle-même. S'arrête à une chose incomplexe, donc la foi du voyageur, la foi du voyageur également. Réponse. Tout simplement, c'est pour montrer que la foi ne peut s'arrêter qu'à la réalité. Toutes les objections sont là. Et pour télescoper ce moyen terme qui est l'énonciation. Dans la patrie, on verra la vérité première telle qu'elle est en soi, comme Saint Jean le dit. Lorsque Dieu se sera montré, nous serons semblables à lui et nous le verrons comme il est. C'est pourquoi cette vision aura lieu non par mode d'énoncé, mais par mode de simple intelligence. Seulement, par la foi, nous ne saisissons pas la vérité première comme elle est en soi, il n'y a donc pas la même raison. Cette perfidem non apprehendimus veritatem primam sicut in se est. Vous voyez bien, vous ne saisissez pas par la foi, vous n'appréhendons pas la vérité première comme elle est en elle-même. Nous l'appréhendons en tant qu'elle se révèle à nous, en tant qu'elle se communique à nous, ut revelans, mais non ut in se. Ut revelans, à travers la parole qu'elle me donne à travers les prophètes. Bon, pas de questions, je peux faire. Oui.
Pourquoi est-ce que c'est à ce niveau-là que vous saisissez quand on rejette un article de foi, alors en fait, on rejette.
C'est peut-être pas immédiatement à ce niveau-là, c'est plutôt à ce niveau-là, on pourrait pas. Voyez, au fond, ce niveau-là, ce que saint Thomas montre ici, dans cet article 2, comparativement à l'article 1er, l'article 1er montre que c'est la vérité première ou révélante, qui est la ratio formalis objectif. La raison formelle de l'objet. N'est-ce pas ? Et qu'en même temps, la vérité première est l'objet matériel. En ce sens que tout se ramène à la vérité première. La vérité première qui est Dieu. Ici, saint Thomas montre que cette vérité première, qui nous est révélée, ou très bien, cette vérité première qui nous est révélée ne transforme en rien notre manière de connaître, donc notre conditionnement humain. La foi ne modifie pas notre manière de connaître. La foi ne nous donne pas de nouveaux concepts. La foi ne nous rend pas plus intelligents au sens de la saisie, de la pénétration dans la réalité. Mais la foi nous donne un nouveau jugement d'existence. Mais la foi nous est dit telle qu'on est, c'est évident, et la culture que nous avons. C'est pour ça que la foi n'est ni chinoise, ni française, ni israélite, ni judaïque. La foi est au-dessus de ça. Elle n'est liée à aucune langue. Elle est liée directement à notre intelligence. C'est Dieu qui, de fait, illumine notre intelligence. Mais la foi ne va pas supprimer notre manière comme naturelle de connaître. Or, nous connaissons par l'ordre de composition. Par l'ordre d'énonciation. Nous connaissons par l'ordre d'énonciation, par l'ordre de composition. Et ça, c'est le mode humain, parce qu'il y a une énonciation. L'énonciation, c'est le verbe complexe. C'est le verbe complexe que nous formons dedans nous-mêmes dans le jugement. Mais nous ne nous arrêtons pas à ce verbe complexe, nous adhérons à la res, à la réalité. Et la réalité, c'est Dieu lui-même. Quand je suis au niveau d'énonciation, je ne suis pas au niveau de la langue. Tout homme pense par mode d'énonciation. Et le verbe est au-delà de la langue. C'est évident. Alors la langue qu'on a peut aider, peut faciliter, n'est-ce pas, en disant il y a des mots plus précis qui aident à mieux voir. Il y a des mots moins précis. Donc c'est plus difficile, n'est-ce pas ? C'est toujours intéressant à ce point de vue-là, de voir comment les mots peuvent aider. Mais notre pensée n'est pas au niveau des mots. C'est pour ça qu'on peut très bien ne pas parler la même langue et se retrouver, et quelquefois plus profondément avec quelqu'un qui ne parle pas la même langue, qu'avec quelqu'un qui parle la même langue, mais qui est une intelligence en dessous du niveau de la mer. Alors c'est les mots qui portent son intelligence et c'est pas son intelligence qui porte les mots. Alors ça fait partie, n'est-ce pas, de la possibilité. C'est comme quand l'armure est trop grande, vous voyez, on est porté par l'armure et on ne porte pas l'armure. Ça peut arriver, ça. C'était le cas du petit David, vous savez, devant Goliath. Ça. On a tous vu ça. Ça peut arriver, même pour la vie religieuse, ça. À la place de le porter, on est porté par la vie religieuse. C'est dangereux. C'est exactement ça, vous voyez, c'est la question du langage, c'est la question extérieure. C'est pas là. On ne pense pas au niveau du langage, on pense au niveau de l'énonciation. Je sais très bien qu'aujourd'hui, des quantités de gens disent qu'ils pensent au niveau du langage. C'est parce qu'ils n'ont jamais pensé. Je répondais de mine quand les gens vous disent ça. Dire, ah, mais c'est facile pour vous. Moi, j'ai fait ça quand j'avais 4 ans. C'est tout. La réponse merveilleuse, c'est du père Bonola, son père Borensky, à propos de la logique mathématique. On fait ça. On va de mine dit tout simplement, oh oui, oh, quand j'avais 15 ans, je suis beaucoup intéressé à ça. Terminé. Quand j'avais 15 ans, j'ai trouvé ça admirable et très intéressant, cette mathématique. Après, j'ai découvert autre chose. Alors, c'est la question, on pense au niveau de l'énonciation et du verbe, mais on ne pense pas au niveau du langage. Le langage peut être pour nous un excitant, peut-être pour nous un moyen de nous réveiller, c'est sûr. Le langage est un moyen pour nous de nous réveiller, mais on ne pense pas à ce niveau-là. On se retrouve pensant au niveau de l'énonciation. Et la foi passe par l'énonciation. La foi se sert de l'énonciation. Alors l'énonciation, elle se communique par le langage, c'est bien évident. Et elle se sert de l'énonciation parce que c'est notre modalité particulière propre de penser. Nous pensons par mode de composition et divine. Ne pensons pas en recevant directement comme un miroir. C'est facile à comprendre, ça. Oui ?
Dans le premier article, on a vu que la raison formelle est un cours. Puis là, l'énonciation est aussi un cours. Alors, il y a une différence entre ces deux.
C'est deux cours différents.
Oui,
c'est sûr. Hein. La raison formelle est un cours du côté de l'objet. Ici, c'est un cours du côté du sujet pensant. Et alors, ce coup est plus gros que le premier. L'énonciation est un coup. N'oublions pas, coup et quad sont des types passe-partout, plus ou moins gros. Enfin, ce par quoi. Le coup, c'est ce par quoi. Et le quad, c'est ce que nous saisissons. Ce par quoi nous saisissons. Ce par quoi nous saisissons. Ben, nous saisissons par l'énonciation. Mais on ne s'arrête pas à ce coup. Ce qu'on saisit, c'est la réalité. C'est ce qu'on saisit. Bon, je peux maintenant, ça c'est facile à comprendre, hein, je me sers de l'énonciation pour penser. Je me sers. Tout ce, un outil, c'est un quoi. Vous avez un outil en main, quand vous prenez un instrument pour écrire, vous écrivez par cet instrument. Et votre écriture se modifie en fonction de la finesse de la plume ou de la grossièreté de la plume. Si vous voulez écrire gros, prenez toujours une grosse plume. Si vous voulez écrire fin, c'est le coup, ce par quoi je réalise la chose. C'est tout le temps comme ça. L'instrument est un coup. Bon, le verbe, c'est le verbe mental, c'est ce par quoi je pense. Et la réalité à laquelle je vais, le quoi. Quand il s'agit de cette première distinction, il s'agit de distinguer la raison formelle de l'objet et l'objet matériel. L'objet matériel, c'est le quoi. Et la ratio, c'est le quoi. Vous voyez que le quoi n'a pas changé. C'est toujours la réalité connue. C'est le quoi qui change à des niveaux différents. Parce que le quoi est du côté matériel. Donc il ne change pas. C'est ce qui est connu. Le quoi, c'est toujours ce qui est connu. Tandis que le quoi, c'est ce par quoi je connais. Alors ce par quoi je connais, la raison formelle de l'objet, c'est l'aspect particulier, c'est l'angle sous lequel je saisis cet objet matériel. Alors cette raison formelle, elle se prend du côté de l'objet. Tandis que le quoi ici se prend du côté du sujet pensant. Oui ? Oui, dites.
Le quoi, dans la première partie, c'est non seulement le quoi, mais aussi beaucoup d'autres choses.
Ah, des quantités. Mais toujours tout ordonné. Il y a des quantités de quoi. C'est matériel. La multiplicité se prend de la matière. L'unité se prend du côté du coup. Parce que le coup est formel. Tandis que le quoi n'est jamais formel. Ce qui est connu. Voyez, le coup est précis. Ce par quoi je connais. La raison formelle sous laquelle je connais cette multiplicité d'objets matériels. Ce coup, il est précis. Et le quoi, il est multiple.
Mais il est simple, paraît-il. Dans le deuxième article, le quoi est simple.
Ah oui, il est simple, parce que c'est Dieu en définitive. C'est Dieu, c'est la vérité première. Toutes les réalités, et l'article premier le dit. L'article premier dit que toutes les autres réalités, j'y adhère par la foi, parce qu'elles sont ordonnées à Dieu. Vous voyez ? Si je crois en l'homme, hein, vous pourriez dire ça aujourd'hui, hein, on ne sait jamais, hein, on pourrait changer le credo. Je crois en l'homme. Je crois en Dieu qui chante. C'est bien, c'est bien. Je crois en l'Esprit Saint qui chante. Très bien, très bien. C'est un credo comme ça. Je crois en l'homme qui chante. Ça peut se faire. Mais qui chante la gloire de Dieu. Un homme qui est ordonné à Dieu. Qui est tout entier ordonné à Dieu. Parce que tous les objets matériels sont ordonnés à la vérité première. En définitive, il y a un objet matériel absolument indivisible, c'est Dieu. Et c'est pour ça que cet objet matériel est unique. Et qu'il est indivisible. C'est en sens-là, vous. C'est évident qu'il y a un petit jeu particulier, mais ça, c'est propre de cette double distinction que fait saint Thomas. Mais ce qui est intéressant à voir, vous voyez, c'est que la distinction du coup et du quoi, justement, se fait tout à fait différente d'un côté de l'autre. Et c'est pourtant la même distinction. Ce par quoi je connais. Ce par quoi je connais. Ce par quoi j'atteins. Ce qui est connaissable, ce qui est connu. Et l'objet matériel est multiple, mais cependant, dans la foi, il est unique, il est indivisible, puisque, en définitive, c'est Dieu. Si je crois en l'homme, c'est relatif à Dieu, dans ma foi. C'est l'homme tout entier tourné vers Dieu. C'est l'homme éclairé par Dieu. C'est l'homme image de Dieu. Je ne crois pas à l'homme comme tel, à l'individu comme tel. Alors, peut-il y avoir du faux dans la foi ? Ça, c'est aussi très important. Aucune des vertus assurant la perfection de l'intelligence ne peut se porter vers le faux, puisqu'il est le mal de l'intelligence, comme le philosophe le fait voir dans son Éthique. Or, la foi, nous le ferons voir plus bas, est une vertu qui assure la perfection de l'intelligence. La fausseté ne peut donc se cacher sous la foi. L'erreur. Ergo ei non potes sub esse falsum. Alors, regardons le corps de l'article. Rien ne peut être présent à une puissance ou à une habitude, voire même à un acte, si ce n'est par le mode de la raison formelle de l'objet. Ainsi, la couleur ne peut être vue que grâce à la lumière, et la conclusion ne peut être sue que par le moyen des démonstrations. Donc vous voyez le quo et le quod ici. La raison formelle est ce qui est connu. La couleur est ce qui est connu, et la lumière est ce par quoi la raison formelle. Ce par quoi je connais la couleur. Or, il est dit que la raison formelle de l'objet de la foi, c'est la vérité première. Outre révélance, ajoutez toujours ça, hein. C'est pas la vérité première en elle-même, c'est la vérité première se révélant à moi. Rien ne peut donc tomber sous la foi, sinon dans la mesure où c'est sous la vérité première. C'est plus dans la foi. Sous une pareille vérité, rien de faux ne peut exister, pas plus que du non-être sous ce qui est l'être, ni du mal sous ce qui est la bonté, d'où il reste que la foi ne peut rien cacher de faux. Ou des relinquitur, quod fidei non potes sub esse aliquot falsum. Alors maintenant, nous allons voir la question des objections. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de difficultés, ça. C'est d'une simplicité absolue. La raison formelle de la foi, c'est la vérité première ou révélance. Il est bien évident qu'il ne peut pas y avoir d'erreur dans la vérité première ou de révélance. Or, tout ce qui est objet de foi dans la mesure où je le saisis sous la manière. Donc, la foi n'implique pas d'erreur. Mais faisons attention, on regarde objectivement. Objectivement, il ne peut pas y avoir d'erreur dans la foi, puisque la foi, c'est tout ce qui est dans la lumière de la vérité première ou de révélance. La vérité première se révélant à moi, c'est la raison formelle de la foi. Si c'est la raison formelle de la foi, tout ce qui est inclus dans la foi est sous cette raison formelle. Donc, il ne peut pas y avoir d'erreur. Alors, maintenant, voyons la réponse aux objections. Première objection. La foi est de même ordre que l'espérance et que la charité. De même ordre, c'est-à-dire toutes les trois sont des vertus théologales. Or, l'espérance peut tomber à faux. Beaucoup espèrent avoir la vie éternelle qu'ils ne l'auront jamais. Ah, c'est bien. Œcuménisme, ça, c'est. Pareillement, la charité peut. C'est une objection, n'est-ce pas ? Pareillement, la charité peut aussi tomber à faux. Beaucoup sont aimés de charité, comme gens de bien, qui pourtant ne sont pas tels. Vous voyez, ça, on voit bien. La foi peut donc, elle aussi, tomber à faux. Alors, voici la réponse de saint Thomas. Le vrai est le bien de l'intelligence. Verum est bonum intellectus. Ça, c'est une chose très importante que saint Thomas revient souvent. Hein. C'est que le vrai c'est la perfection de l'intelligence. De l'intelligence n'est parfaite que quand elle est vraie. Et c'est vrai, ça. Mon intelligence n'est parfaite que quand elle est vraie. Mon intelligence qui dit une erreur n'est pas une intelligence parfaite. Et ça va très loin, ça. Toutes les philosophies qui sont un petit peu à côté. L'intelligence n'est pas parfaite. C'est pour ça que c'est si fatigant à lire. Parce que c'est pas intelligible, ça ne vous nourrit pas. C'est comme si vous preniez une viande, n'est-ce pas, qui nourrirait pas. Du pain blanc, très blanc, très blanc, mais il n'y a plus rien dedans. Alors ça ne nourrit pas. Alors c'est fatigant. Ça fatigue. Le vrai est le bien d'intelligence, mais n'est pas celui de nos puissances d'appétit. C'est pourquoi toutes les vertus qui assurent la perfection de l'intelligence. Ça va très loin, ça. Toutes les philosophies qui sont un petit peu à côté. L'intelligence n'est pas parfaite. C'est pour ça que c'est si fatigant à lire. Parce que c'est pas intelligible, ça ne vous nourrit pas. C'est comme si vous preniez une viande, n'est-ce pas, qui ne nourrirait pas. Du pain blanc, très blanc, très blanc, mais il n'y a plus rien dedans. Alors ça ne nourrit pas. Alors c'est fatigant. Ça fatigue. Le vrai est le bien d'intelligence, mais n'est pas celui de nos puissances d'appétit. C'est pourquoi toutes les vertus qui assurent la perfection de l'intelligence excluent totalement le faux. Puisqu'il est essentiel à la vertu de se porter uniquement au bien. Mais les vertus qui assurent la perfection des appétits n'excluent pas totalement le faux. Quelqu'un peut agir selon la justice ou selon la tempérance, tout en ayant quelques fausses opinions dans la manière de son action. Ça arrive. On est meilleur que ses idées. C'est bien. Ça arrive de temps en temps. On est meilleur que ses idées. Je ne m'ennuie pas de monde. Mais quelquefois, on voit ça. On voit des gens qui sont merveilleux, qui font des choses étonnantes, puis dès qu'ils commencent à parler, ils disent des grosses bêtises. Alors on se dit, mais quoi ? Alors on a envie de leur dire, écoutez, vous faites beaucoup mieux de continuer d'agir et de vous taire. Ce que vous faites est admirable, ce que vous dites est complètement idiot. C'est une inadéquation, la fable de la fontaine. Oui, c'est si le ramage ressemble au plumage. Enfin, alors, voyez bien. Cela étant, comme la foi est une perfection de l'intelligence, tandis que l'espérance et la charité sont des perfections de la faculté d'appétit, il n'y a pas la même raison pour elles. Donc ça, c'est un coup de patte que donne saint Thomas pour montrer que l'analogie qui est faite dans l'objection ne signifie rien du tout. Ne raisonnez pas de la même façon pour les vertus qui affectent l'intelligence et pour les vertus qui affectent l'appétit. C'est tout à fait autre chose. Les vertus qui affectent l'intelligence ne peuvent pas, en tant que vertus, couvrir l'erreur. Tandis que ce qu'il y a d'extraordinaire dans les vertus qui affectent l'appétit, elles peuvent aller au-delà de ce qu'il peut y avoir d'erroné. Et ça arrive constamment aujourd'hui. On voit tout à fait ces jours-là. Et cependant, sous l'espérance, non plus il n'y a rien de faux. Effectivement, on n'espère pas qu'on aura la vie éternelle par son propre pouvoir, car ce serait de la présomption. On espère qu'on l'aura par le secours de la grâce. De fait, celui qui aura persévéré dans cette grâce, tout à fait infailliblement, obtiendra la vie éternelle. Il en va de même pour la charité. son rôle est d'aimer Dieu en quiconque il eût pu être. Peu importe donc à la charité qu'il y ait Dieu dans cet homme-là, puisque c'est pour Dieu qu'il est aimé. C'est fort, ça. Si militer et siam caritatem pertinet digere deum in quocumque fuerit, unde non refert ad caritatem, utrum in isto sit Deus, qui propter Deum digitur. Ça, c'est très très fort. Ça, c'est le réalisme de la charité. Alors, le réalisme de la charité, vous voyez, saute au-delà de l'homme pour atteindre Dieu. Ça, c'est très très fort. C'est la différence avec l'amitié humaine. Si l'amitié humaine, vous aimez un voleur, garde votre portefeuille. N'est-ce pas ? Tandis que dans la charité, il n'y a pas de danger. Dans la charité, il n'y a pas de danger. Vous aimez cet homme, vous l'aimez à cause de Dieu. Mais il reste un voleur. Et vous l'aimez à cause de Dieu. Il reste une crapule. Vous l'aimez à cause de Dieu. Oui. Non refert, hein, c'est. Unde non refert ad caritatem utro ministo sit Deus, qui propter Deum delito. Vous l'aimez à cause de Dieu. Alors évidemment, vous faites tout pour qu'il se convertisse, hein, c'est bien évident. Oui.
Qu'est-ce que le voleur ? Dans Saint Jean, il parle.
Ah oui, c'est autre chose.
Qu'est-ce que le voleur du vélo ?
Oui, mais le voleur, je veux dire tout simplement, le voleur qui à la place de respecter l'argent qui vous appartient, puise en même temps que vous.
Oui, mais en rentrant dans le monde de Saint-Jean.
Oui. Ah oui, mais ça, c'est autre chose. Hein, là, on va entrer dans une autre perspective. C'est le voleur, celui qui ne passe pas par la porte. Oui, c'est le voleur. Passe pas par la porte. Parce que c'est très rare que les voleurs passent par la porte. C'est très rare. Ordinairement, ils passent plutôt par le toit, par la fenêtre, par des choses comme ça. Mais c'est plutôt rare qu'ils passent par la porte. Parce que quand ils passent par la porte, ça prouve qu'ils sont tout à fait à l'aise. Et alors, ils passent par la porte. C'est pour ça que le voleur, normalement, passe par... C'est le bon berger qui passe par la porte. Tandis que le voleur, il passe n'importe comment. Et alors, le voleur, tous ceux qui sont passés avant le Christ. Ça, c'est une autre question. Alors voyons, continuons parce qu'il faut terminer. Deuxième objection, Abraham a cru à la naissance future du Christ. Selon le mot de Saint Jean, votre père Abraham a exulté à la pensée de voir mon jour. Or, passé le temps d'Abraham, Dieu pouvait ne pas s'incarner, puisqu'il ne dépendait que de sa volonté de prendre chair. Eh bien, dans ce cas, ça vous pouvez tout dire à l'Écriture, hein. Eh bien, dans ce cas, ce que Abraham avait cru au sujet du Christ se fut trouvé faux. C'est excellent comme objection. C'est des raisonnements hypothétiques. Vous pouvez tout dire comme ça. Alors, réponse de saint Thomas. Que Dieu ne s'incarna pas, en soi, ce fut une chose possible, même après le temps d'Abraham et même avant. Mais en tant qu'elle tombe sous la préscience divine, la chose revêt un certain caractère nécessaire d'infaillibilité, ainsi qu'il a été dit dans la première partie. Et c'est par là qu'elle tombe sous la foi. Dès lors, en tant qu'elle tombe sous la foi, elle ne peut être fausse. Ça aussi, c'est très important à voir. La foi, c'est le regard de Dieu. Donc, c'est regarder tout dans la lumière de la préscience de Dieu. Et non pas un regard historique. C'est la différence du regard historique et du regard de foi. Donc, le regard, c'est de regarder en tant que la réalité tombe sous la préscience divine. Alors, voyons vite encore. D'ailleurs, troisième objection. D'ailleurs, tous les anciens eurent cette foi à la naissance future du Christ. Et cette foi a duré chez beaucoup jusqu'à la prédication de l'Évangile. Mais comme le Christ était déjà né avant qu'il commençât à prêcher, il était faux qu'il eût encore à naître. Donc la foi peut porter à faux. C'est évident, ils espéraient la venue du Messie, il était déjà là. Donc, ils croyaient quelque chose qui n'était pas juste. Mais, alors, ce qui appartient, réponse, ce qui appartient à la foi des croyants, après la naissance du Christ, c'était de croire que le Christ naîtrait en un temps. Mais cette détermination du temps dans laquelle les croyants se trompaient ne venait pas de la foi, elle venait d'une conjecture humaine. Il est possible en effet qu'un fidèle pense par une conjecture humaine quelque chose de faux. Mais qu'il soit par la foi dans une fausse estimation, c'est impossible. Ça, c'est très intéressant. Très intéressant à voir comment peut se mêler nos conjectures humaines à la foi. Et que facilement, on peut confondre la foi et nos conjectures humaines. Les conjectures humaines peuvent être fausses. J'ai une mauvaise interprétation de l'Écriture. Ça, c'est une conjecture humaine. J'ai une mauvaise interprétation de l'Écriture. J'ai donc une herméneutique qui n'est pas juste. Alors à ce moment-là, je suis contaminé. Et ça ne touche pas ma foi, mais ça touche ma théologie. Et à ce moment-là, on comprend comment, à côté de quelque chose de très pur, de quelque chose d'infaillible, il peut y avoir des choses secondaires qui se sont musclées. Là, c'est l'imaginaire. Dernière objection. Un point de vue, un point de foi, c'est de croire que sous le sacrement de l'autel est contenu le vrai corps du Christ. Or, il peut arriver, quand la consécration n'est pas faite correctement, qu'il n'y ait pas là le corps du Christ, mais du pain seulement. Il peut donc y avoir du faux dans la foi. Et ça, c'est très très fort comme argument. La foi du croyant ne se rapporte pas aux espèces du pain qui sont ici ou là, mais à ceci que le vrai corps du Christ doit exister sur les espèces du pain qui tombent sous nos sens. Dès lors, il a été correctement consacré. Doit exister sous les espèces du pain qui tombent sous nos sens, dès lors qu'il a été correctement consacré. Par suite, si ce pain n'a pas été correctement consacré, la foi ne cachera pas pour cela du faux. Très très curieux et c'est très beau. Sur quoi porte la foi? La foi porte sur le fait que les paroles du Christ sont efficaces. Et non pas sur le terme, oui, l'objet matériel. Et si on regarde uniquement le terme, on matérialise la foi. Alors elle porte sur les paroles du Christ. Qui sont toujours actuels. Vous réfléchissez là-dessus. Et s'il y a quelques questions, vous les noterez.